Et après une semaine d'absence, nous le retrouvons, Louis-Marie Solaire, comment allez-vous ?
Je vais mieux, merci Jonathan.
Alors quelles sont vos propositions de ce jour ?
Eh bien, avant de vous faire quelques propositions cinématographiques, Jonathan, je voudrais rendre hommage à Angelo Badalamenti. Ce grand compositeur italo-américain nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 85 ans. Il a collaboré avec nombre de réalisateurs, mais c'est surtout son travail avec David Lynch qu'on retiendra. Il lui a écrit ses plus belles partitions pour des films comme Blue Velvet, Lost Highway ou encore Mulholland Drive, film dans lequel il fait également une apparition mémorable en gangster intraitable sur la façon de faire et de servir un expresso. On sait moins qu'il a travaillé aussi avec des réalisateurs français, les ritournelles enfantines de La Cité des Enfants Perdus, de Caro et Jeunet, c'est lui. C'est lui aussi pour Un long dimanche de fiançailles de Jeunet tout seul. Il composera également de ces thèmes mélancoliques dont il a le secret pour Nicole Garcia dans L'Adversaire et José Dayan pour Cet amour-là. Mais revenons-en à Lynch, le cinéaste américain reste celui qui a donné sa chance à Angelo Badalamenti qui, jusqu'au milieu des années 80, avait peu d'affinité avec le monde du cinéma. Juste après avoir composé la BO de Sailor et Lula, Palme d'Or à Cannes en 1990, Angelo Badalamenti travaille sur Twin Peaks, la série de David Lynch, qui, à peine le pilote diffusé, devient mythique et avec elle son thème, authentique coup de génie, quelques notes nonchalantes de guitare mixées avec celles d'un clavier langoureux, le tour est joué, le téléspectateur scotché à l'écran, impatient de passer le panneau d'entrée de Twin Peaks, la bourgade imaginée par Lynch. Badalamenti recevra un Grammy Award pour ce thème brillant et 3 nominations aux Emmy Awards pour l'ensemble de son travail sur la série. L'album de la bande originale de Twin Peaks deviendra disque d'or dans 25 pays.
Très reposante, Louis-Marie.
Magnifique.
En plus, le soleil se lève, un petit peu rose dans le ciel.
Magnifique mélange de musique électronique et d'instruments, somme toute classiques pour la composition de musique de film.
L'hommage est fait, c'était très beau, Louis-Marie. Merci. Maintenant, parlons de l'actualité de la semaine et peut-être allons-nous faire un tour sur la planète Pandora. Ça me plaît.
Ah oui, mais je risque de vous décevoir, Jonathan. Nous allons délaisser les héros d'Avatar, devenus parents, néanmoins. Jetons plutôt un coup d'œil sur d'autres personnages auxquels les grandes créatures extraterrestres bleutées vont faire pas mal d'ombre. Mais d'abord, un petit retour à mercredi dernier pour parler de Falcon Lake, le très beau premier film de Charlotte Lebon. Dans un coin perdu du Québec, au bord d'un lac, une famille de Français débarque dans une maison qui tient plus de la cabane pour y passer des vacances et retrouver là une amie et sa fille. Les parents vont être bien vite mis de côté pour laisser toute la place à Bastien, 13 ans, à l'aube de l'adolescence, et Chloé, à peine plus âgée, aux portes de l'âge adulte. Après les atermoiements d'usage, les deux jeunes gens commencent à échanger. Chloé montre un goût prononcé pour les histoires de fantômes. Bastien, lui, reste suspendu à ses lèvres et ne pense qu'à pouvoir l'accompagner dans ses activités. La fille et le garçon se tournent autour, hésitent, partagé entre l'attirance et le rejet, un récit, initiatique, une éducation sentimentale qui flirte avec la noirceur d'un conte horrifique. Charlotte Lebon.
Je pense qu'il y avait un vrai désir dans le film, c'était de trouver toujours une espèce d'équilibre entre la lumière et la noirceur. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment très, très important. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien aussi pour une histoire qui traite du désir, parce que le désir, il y a quand même quelque chose, surtout quand c'est la première fois qu'on désire quelqu'un, ou en tout cas la première fois qu'on a des pulsions comme ça, avec des émotions comme ça, il y a quelque chose de vraiment effrayant qui est aussi de l'ordre de la mort, parce qu'on on se lance dans quelque chose qui nous est complètement inconnu et qui nous effraie. Moi, je me rappelle de vivre ça aussi, d'être terrorisé face à mes premières pulsions sexuelles, être terrorisée face à ces premières émotions que j'arrivais pas à contrôler. Et c'est ce fameux héros Thanatos, quoi, qu'on les mêle, on sait pas trop pourquoi, mais ça fait énormément de sens. Et donc, oui, peut-être que héros, c'est la lumière et Thanatos, c'est la noirceur.
Charlotte Lebon filme avec tendresse ses deux personnages, tout comme elle tresse avec délicatesse un récit plein de poésie fantastique où les fantômes viendraient assombrir ou alors illuminer une histoire d'amour tout juste esquissée, mais peut-être bien éternelle.
Alors, on l'a bien compris, on n'aura pas le droit à une expédition interstellaire, mais vous allez quand même nous faire voyager aujourd'hui, Louis-Marie.
Voyager, tout à fait, Jonathan. Nous partons à la suite du pape grâce à In Viaggio, signé Gianfranco Rosi. Dès le début de son pontificat, le pape François se met à voyager en commençant par l'île italienne de Lampedusa, première destination des migrants venus d'Afrique. Depuis, il a visité 53 pays pour tenter par ses mots, dont il connaît la portée limitée, de réconforter les âmes et les corps martyrisés. En s'exprimant tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les migrations et la condamnation de toutes les guerres. Il n'est finalement pas surprenant que le documentariste Gianfranco Rosi, lui aussi infatigable voyageur, sans doute le plus fin des observateurs des souffrances du monde, allait croiser un jour la route du pape François. Le cinéaste transalpin a vu chez le souverain pontife la volonté de faire du voyage un itinéraire à la fois intellectuel et spirituel. Rosi, fasciné par l'idée de ce pape sans cesse en mouvement, a alors demandé à voir des images de ses voyages et s'est vite retrouvé à regarder des dizaines d'heures de rush sorties des archives du Vatican. C'est là qu'il a pensé en faire un film, sans savoir quelle forme il pourrait prendre. Il a finalement choisi de faire un portrait, le portrait d'un homme seul. Gianfranco Rosi, la fin de son intervention est en français, un effort incontestable.
I'm not a Catholic.
Il n'est pas catholique. Lorsqu'il a commencé à travailler sur ce film, il s'est posé la question si c'était possible de faire un film sur le pape qui ne serait ni idéologique ni théologique.
Idéologique et théologique. Et plus d'un film d'un pape, je voudrais faire un film d'un homme. So pour moi, ce n'est pas un portrait d'un pape, ce n'est pas un portrait de l'Église, mais c'est un portrait d'un homme et d'un homme seul. Un homme seul qui veut changer quelque chose. Ça, c'est le message du film.
Le voyage constitue donc l'élément essentiel des films de Gianfranco Rosi, que ce soit à travers les errances d'un narcotrafiquant tueur repenti dans El Sicario ou encore dans les traversées meurtrières de la Méditerranée vers Lampedusa dans Fuoco Mare. C'est d'ailleurs sur cette île italienne, visitée en juillet 2013 par Jorge Mario Bergoglio, tout juste devenu François, que commence In Viaggio. L'invasion russe en Ukraine amène le réalisateur italien à respecter la chronologie dans le montage de son film. Le pape ayant toujours été résolument contre la guerre, Rosi entraîne alors le spectateur à sa suite. Ainsi, nous parcourons plusieurs milliers de kilomètres et visitons une vingtaine de pays, tels les États-Unis où le pape dénonce le commerce des armes et les abus sexuels commis par certains prêtres, l'Arménie où il rappelle le génocide, l'Irak où il condamne l'instrumentalisation guerrière de la religion. Par ses choix, Gianfranco Rosi retrace aussi l'itinéraire intérieur du pape, témoin de la misère du monde, de plus en plus conscient des limites du réconfort de ses paroles, mais toujours guidé par l'espérance. Plus encore au sentiment pessimiste du cinéaste sur l'avenir du monde, ses réalisations précédentes en témoignent, répond la foi inextinguible de ce voyageur magnifique qu'est le pape François. In Viaggio est un grand film.
Thank you.
Merci beaucoup, Louis-Marie Solaire, pour cette nouvelle chronique cinéma. Et on vous retrouve ce soir à 19h dans N'oubliez pas l'ouvreuse. Rendez-vous est pris.
Rendez-vous est pris.